Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Aux armes, professeur, pour lutter contre les influences et les ingérences étrangères dans l'éducation, le ministère du même nom a un plan. Il est concocté par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Pour en parler, je reçois son directeur, Charles Torossian. Bonjour Charles Torossian, allez dans vos mots, c'est quoi votre institut ?
Bonjour, alors l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, c'est un centre de formation initiale pour nos chefs d'établissement.
Donc plutôt du secondaire ?
Secondaire, mais aussi un volet pour l'enseignement supérieur.
D'accord.
Où on forme les directeurs du FR, les directeurs généraux des services, ceux qui s'occupent du back-office, comme on dit, des universités. Bref, tous les gens qui ont un statut d'encadrant, de cadre. Donc, on ne forme pas d'enseignants et encore moins d'élèves.
D'accord. Vous avez décidé donc de vous emparer de ce problème via votre spécificité, c'est-à-dire la formation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à lutter contre l'ingérence et l'influence dans les établissements scolaires français ?
Alors, la question de l'ingérence et de l'influence, c'est une question qui est très regardée d'un point de vue économique, maintenant depuis une quinzaine d'années, sur la préservation de notre patrimoine et de nos zones économiques tout à fait fondamentales. Sur l'enseignement supérieur, c'est un sujet qui est largement traité, notamment dans des laboratoires.
Sensibles.
Des zones de protection. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir d'étudiants iraniens dans des laboratoires de recherche
nucléaire.
Sur les missiles. Vous voyez, donc,
oui.
je donne un exemple, oui. Puisqu'il y en a un qui n'est pas très loin de là où nous sommes installés sur le site du Futuroscope. Mais sur la question scolaire, c'est une question qui n'a pas toujours été bien abordée. Or, très clairement aujourd'hui, nous avons une zone grise, qu'on pourrait appeler grise, de pénétration, d'influence de toutes sortes, économique, les alliances, on pourra en reparler, on pourra donner des exemples. Lorsqu'un chef d'établissement, par exemple, va faire une coopération en Chine avec un autre établissement scolaire où on lui propose des voyages de scolaires. Donc, on pourrait penser que c'est de l'ouverture culturelle qui profite, effectivement. Mais allez savoir si les étudiants chinois qui vont venir en France ne sont pas de futurs espions du parti chinois. Donc on peut se poser ce genre de questions.
Donc là, il y avait une zone grise scolaire que vous avez voulu répondre,
absolument,
combler.
Absolument, parce que beaucoup d'établissements ont des relations internationales. Beaucoup d'établissements ont aussi des zones de formation de l'enseignement supérieur. On pense jusqu'au bac plus 2 dans certains établissements. On a les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs qui sont un élément. Il y a à peu près 700 établissements qui ont des classes préparatoires et qui reçoivent des étudiants étrangers. Donc c'est très bien pour la mondialisation, c'est très bien pour nos écoles d'ingénieurs. Cependant, sur les études des étudiants qui viendraient de Russie, d'Inde, de Chine, parfois du Moyen-Orient, eh bien, on pourrait éventuellement se poser une question. Et des questions qu'on ne se pose pas encore actuellement.
Comment vous définissez-vous, en ce qui concerne à votre spectre d'intervention, l'ingérence et l'influence dans ce monde-là scolaire ?
Alors, on sait que l'intelligence économique procède, de 5 piliers, avec 3 axes fondamentaux, la veille, la protection du patrimoine, et puis tout ce qui touche à l'influence. Nous, ce qu'on va regarder, on va se concentrer sur la protection du patrimoine immatériel et informationnel, c'est-à-dire, en vérité, la culture, l'information sous toutes ses formes. Et sans doute, on en reparlera avec les outils numériques aujourd'hui, ChatGPT, les sources, etc. C'est un enjeu stratégique de formation pour nos élèves et nos étudiants. Et puis, surtout, développer un environnement éducatif sûr pour nos élèves. On prenait l'exemple des environnements numériques de travail. Ce sont en gros
les ENT.
Ce qu'on appelle les ENT, des systèmes d'information dans nos établissements scolaires. Eh bien, à plusieurs moments, on a eu ces derniers mois des attaques malveillantes pour bloquer nos ENT, mais aussi dans plusieurs centaines d'entre eux, des diffusions d'images malveillantes qui peuvent terroriser.
De menaces d'attentats à la bombe dans des établissements.
Par exemple, mais aussi des images malveillantes, avec très malveillantes, mais aussi, j'allais dire, terrifiantes. Hein, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui peuvent terroriser la jeunesse et donc créer un climat de non-confiance. Un environnement non sûr au sein de nos établissements, avec des parents qui peuvent se poser des questions. Donc il est très important pour nous de sécuriser, nos établissements et notre environnement éducatif des influences étrangères.
Est-ce que dans influences étrangères, vous y mettez également les tentatives des géants mondiaux de la high-tech pour s'emparer des environnements numériques de travail? Est-ce que vous vous méfiez d'un Google, d'un Apple, etc.?
Alors, le ministère de l'Éducation nationale et sa direction du numérique éducatif fait très attention à signer des partenariats très sécurisés avec, les entreprises. Depuis, aujourd'hui... plusieurs mois et maintenant ça fait plus de 2 années, on a une stratégie numérique éducative portée par la direction du numérique éducatif qui vise à la souveraineté, à la sécurisation des données, au fait que le RGPD,
voilà, le règlement général de protection des données européen,
c'est ce qui nous protège ici en Europe, soit bien appliqué, que les données restent en France. Ces enjeux, on va les retrouver sur la santé. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu stratégique sur la donnée des élèves, que ce soit sur les parcours des élèves, sur l'orientation, sur, les apprentissages. Pourquoi ? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, partout sur la planète, les gens se posent des questions. C'est comment j'apprends mieux en mathématiques. J'ai mené une mission sur les mathématiques, comme vous le savez sans doute. Et donc aujourd'hui, apprendre les langues, apprendre sa langue, apprendre les mathématiques, aujourd'hui, ça se fait avec de l'intelligence artificielle. Ouais. Les entreprises qui ont accès à la façon dont les élèves en France, en Inde, en Afrique, en Amérique apprennent, ces entreprises-là, aujourd'hui, ont un avantage stratégique. Et on a, avec la direction du numérique éducatif, fait très attention des partenariats que nous avons signés avec les entreprises pour savoir comment la donnée est gérée, comment elle est diffusée. Mais il n'empêche que, malheureusement, même certaines entreprises, par exemple, une des entreprises avec lesquelles nous avions un partenariat stratégique, a été rachetée par une entreprise américaine.
Alors, vous êtes très attentif aussi à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'influence étrangère dans des établissements. Par exemple, vous avez été étonné de voir dans un établissement qui fait du bac plus 2 des étudiantes chinoises s'inscrire en nombre. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ?
Alors, ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout.
Ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas du tout. Lorsque vous avez, au centre de la France, rester assez imprécis, dans un BTS tertiaire, l'arrivée d'étudiantes chinoises tout à fait ravissantes, en grand nombre, eh bien, vous pouvez, quand vous êtes chef d'établissement, vous poser des questions. Et évidemment, les services de sécurité ont découvert que, pas très loin, il y avait de jeunes ingénieurs...
Industrie de défense,
Voilà, qui travaillaient pas très loin et qui s'ennuyaient dans cette petite ville de province.
Et là, vous considérez que c'est la responsabilité d'un chef d'établissement, par exemple, de signaler cela?
Eh bien, évidemment. Évidemment, et c'est pour ça que nous allons former, dans notre plan de formation, nous devons sensibiliser nos chefs d'établissement qui ont justement ces sections de bac plus 2, ces classes préparatoires, c'est ce qu'on appelle les brevets de techniciens supérieurs, ces sections-là, STS, d'être plus vigilants sur leur recrutement. Il ne s'agit pas uniquement de remplir ces classes, s'agit aussi de savoir avec qui vous les remplissez. Parce que c'est une faille. Nous avons aussi... nous allons former, sensibiliser aussi les directeurs, ce qu'on appelle les campus de métiers et qualifications, qui sont aujourd'hui des zones intermédiaires entre le système éducatif et le tissu industriel prometteur de notre pays.
Ah,
nous
oui.
avons comme ça une cinquantaine, alors, je ne sais plus exactement, de campus des métiers et qualifications, l'aéronautique, le luxe, voyez, et donc parfois des techniques ancestrales françaises qui sont des bijoux de notre industrie. Et évidemment, il faut former la jeunesse.
Jusqu'à présent, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas formés, sensibilisés à ces questions.
Alors, pas complètement. Pas complètement, et j'allais dire qu'il
donc il y a du travail.
Il y a un travail à faire, disons, de sensibilisation sur ces questions, parce que ce sont non pas des failles, mais des éléments qu'il faut sur lesquels il faut être vigilant. Autant sur l'enseignement supérieur, c'est une culture qui s'est installée auprès de nos chercheurs, nos directeurs, de nos présidents d'université, nos directeurs de grands centres de recherche comme le fameux Centre national de la recherche.
CNRS,
les centres aussi médicaux.
Autant dans le secondaire, lycée,
autant dans le secondaire, qui pourtant ce sont des zones potentiellement d'influence. Lorsque, par exemple, il y a une quinzaine d'années, une cinquantaine d'établissements à classe préparatoire avaient signé des partenariats stratégiques avec la Chine. Et donc, on avait en masse des étudiants chinois qui venaient dans nos classes préparatoires.
Merci beaucoup, Charles Torossian, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.